Ce message a deux volets, un volet de mise en garde sur ce que nous vivons actuellement. Alors, j'étais alerté par ce que je vais vous dire par Jérôme, qui m'a envoyé cette information que j'ignorais, et qui, pour moi, montre un peu tout ce que je vous dis déjà depuis longtemps, et qui se concrétise au travers des événements que nous vivons. En particulier, la jeunesse. Ça, la jeunesse, enfin la très petite jeunesse, de 10 à 20 ans, c'est celle qui sera l'avenir hein, du monde dans lequel nous vivons, et qui porteront un certain nombre de valeurs. Hein. Et quand Jérôme m'a envoyé ça, je dis « Waouh, c'est incroyable !» de voir à quel point l'Occident, dans lequel nous sommes, est impacté par des choses qui ont été reléguées dans le passé, grâce au christianisme. C'est le christianisme qui est venu en Occident en premier, hein, dans l'histoire, après le Moyen-Orient, bien sûr. J'étais quand même étonné qu'en Corée du Sud, par exemple, hein, l'évangile est arrivé au 19e siècle. Hein, alors que nous, c'est... au 4e siècle, hein, Martin de Tours et des Saint-Martin partout en France, c'est des évangélistes voilà, qui ont marqué notre Occident, qui ont marqué nos valeurs, qui ont marqué notre façon de vivre, etc. etc. Et bien sûr, l'ennemi n'a pas aimé ça, et il veut déchristianiser l'Occident. Et là, il y a une application qui s'appelle TikTok, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, TikTok, qui est très très utilisée par cette jeunesse, hein, parce qu'elle est, voilà, elle a été acceptée, elle a été facile. Alors c'est assez étonnant parce que celui qui l'a créé, c'est un chinois, hein, c'est une application chinoise, il s'appelle Zhang Yiming, et ce prénom est inspiré d'un proverbe qui signifie « surprendre tout le monde la première fois ». C'est assez incroyable d'avoir un prénom qui marque un petit peu la destinée qu'il a en ce moment, parce qu'il y a 2,4 milliards de fois, 2,4 milliards de fois, vous savez, les Chinois ne font pas ça en petite mesure, où le hashtag... alors déjà, il y a 1,5 milliard d'utilisateurs. Bon, donc vous voyez déjà le nombre d'utilisateurs qui sont branchés là-dessus et pratiquement que des jeunes de cet âge dont je vous ai parlé. Mais le hashtag Witch Talk, c'est-à-dire Sorcier Talk, T-O-K, a été visité près de 2,4 milliards de fois. Et certains créateurs qui créent des applications sur ce hashtag Witch Talk, comptent pour certains 500 000 abonnés. Tout de suite un succès. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous créez un truc, paf, 500 000 abonnés pour vous tout seul. Hein, donc c'est un phénomène de société qu'il faut prendre en compte pour voir comment les choses évoluent dans les années qui viennent et comment nos jeunes sont enseignés à la base et qu'est-ce qu'ils vont produire pour la suite. Parce qu'en fait, les jeunes, on a fait l'école pour enseigner la jeunesse pour qu'elle puisse nous suivre après. Alors voilà le témoignage d'une jeune fille. Qui témoigne en disant « J'ai découvert la sorcellerie grâce à une amie de ma mère qui était voyante. Elle a su lire en moi et m'a dit qu'une jeune fille morte veillait sur moi. Et un jour, alors que j'étais sur TikTok, je suis tombé sur le profil d'une sorcière et je me suis dit « C'est ça, c'est ce qui me manquait. » Voilà. Nixia, qui a 16 ans, et depuis mars, elle pratique et participe sa passion pour la sorcellerie sur le réseau TikTok. Elle est ainsi l'heureuse membre de WitchTok, donc cette application spécifique sur TikTok. Une communauté de sorciers et de sorcières actives sur le réseau social et qui a fait parler d'elle ces derniers mois grâce à ses divinités éclectiques, sa passion pour l'encens, les bougies, son engagement en faveur du mouvement Black Lives Matter, vous connaissez, aux États-Unis, qui soutient le mouvement antiraciste, et une étrange malédiction contre la lune. Voilà. Même le président américain Donald Trump a déclaré le 3 août que l'application TikTok devait être vendue d'ici mi-septembre 2020 aux Américains afin de pouvoir continuer à opérer aux États-Unis. Donc, vous voyez, on s'arrache en fait cette application tellement on ne peut pas la contourner parce qu'elle elle impacte la jeunesse. Et voilà comment l'application prolifère parmi nos jeunes. Et c'est aussi un avertissement pour ceux qui ont des enfants ou qui en auront, pour montrer à quel point, tout seul, voilà, ils peuvent manipuler ces outils de réseaux sociaux et tomber très facilement. Parce que maintenant, il y a les algorithmes qui font qu'ils vont vous conduire vers ça. Hitchcock a vraiment explosé pendant le confinement, explique Jérémy. Là aussi, vous voyez, c'est révélateur. Le confinement était révélateur de choses qui étaient sous-jacentes. Lui s'intéresse à la sorcellerie depuis qu'il est enfant, grâce au succès des livres Harry Potter. Harry Potter, c'est quelque chose qui avait déjà été lancé dans ce sens-là. Et la série Charmed. Il a ensuite appris que sa grand-mère pratiquait la divination, le tarot, la pendule, et des activités ésotériques, souvent marginales et solitaires, que TikTok a permis de rendre visible, mais qu'il a surtout popularisé auprès des plus jeunes. L'algorithme du réseau social a joué un grand rôle. En installant TikTok, un utilisateur se voit proposer une grande variété de contenus, des fameuses chorégraphies, c'est ce qui a attiré les jeunes, vous voyez, on danse chez soi, etc., qui ont fait la réputation de l'application. Et des contenus plus originaux, produits par des communautés de niche. Hitchcock en est un exemple. Par exemple, ce jeune dit « Quand j'ai installé Hitchcock, j'ai vu une vidéo de la sorcière française Sarah 06. » Alors, je vais regarder ce qu'elle a produit. C'est une jeune fille, très très jeune, hein, dans la vingtaine, et très très séductrice hein, dans ce qu'elle présente, etc. Penseriez pas à une sorcière, mais elle se réclame comme étant une sorcière. Et elle explique à un autre utilisateur, je me suis abonné à son compte et j'ai aimé quelques vidéos, puis TikTok ne m'a plus proposé que ça. Et une fois que vous êtes sur un truc, là, vous avez des propositions qui vont dans le même sens. Et dans cette petite bulle de filtre, les sorcières rencontrent peu de contradicteurs, puisqu'ils sont entre eux. Et donc on ne leur dit pas, c'est pas bien. Certains viennent parfois nous dire qu'une place nous attend en enfer. Vous voyez, même ce genre de message est donné aux jeunes. Voilà, vous avez une place en enfer, c'est super. Voilà, prenez votre ticket, vous y allez. Et ces nouveaux sorciers sont souvent en réalité des sorcières, symbole d'indépendance, d'insoumission. La figure de la sorcière a été dépoussiérée ces dernières années dans le culte populaire, mais aussi au sein des mouvements féministes. Et nous nous déclarons filles spirituelles des sorcières, libres et savantes. Nous déclarons sœurs de toutes celles qui, aujourd'hui encore, parce qu'elles sont femmes, risquent la violence et la mort. Déclamait ainsi une tribune signée l'année dernière par 200 personnalités, dont Marlène Schiappa, qui a signé officiellement aussi cette déclaration, qui était et qui est secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous voyez, on est en pleine actualité. La sorcière n'est plus associée à la frustration avec un physique ingrat, vous savez, sur un balai, mais elle incarne la puissance invaincue des femmes. Pour reprendre les termes de Mona Chollet, auteur des Sorcières, toutes ces femmes ont un point commun, ne pas avoir un parcours marital et familial classique, soit parce qu'elles sont veuves, ou qu'elles restent célibataires, ou qu'elles refusent d'avoir des enfants. Alors c'est une religion, c'est une nouvelle religion. On jette la religion classique et on prend cette religion qui est plus séduisante. Être sorcier, sorcière, c'est accepter d'évoluer à la marge. Dans l'intimité de la communauté Hitchcock, les ados filment, qu'est-ce qu'ils filment ? Leurs hôtels. Ils font des hôtels, ils font des cultes. On ne peut pas venir en présentiel dans les cultes, mais là, ils font des cultes et ils les diffusent sur TikTok. Les hôtels qui montent dans leur chambre, un ensemble de bougies, des pierres, des pots remplis de coquilles d'œufs écrasés, qui sont utilisés pour tracer les figures, réaliser des sorts de protection. Les jeunes partagent leurs meilleures astuces pour récolter de l'eau lunaire, de l'eau solaire, et donnent les adresses de leurs magasins favoris où acheter les herbes nécessaires à leurs potions. La pratique est visuelle, ludique, souvent un peu secrète. Comment expliquer à ses parents que l'on pratique la sorcellerie? Certains utilisateurs filment leurs hôtels agencés dans une boîte à chaussures afin qu'on ne soit pas vu par des proches. Donc, vous voyez, c'est en plus secret. Personnellement, Nausicaa, une jeune fille, dit « Personnellement, j'en ai parlé à ma famille, mais pas à mes amis », explique Nausicaa. « Il faut dire que je n'en ai pas beaucoup. » Une pratique observée avec curiosité par sa mère et avec distance par son père. Sur TikTok, c'est autre chose. Elle est soutenue, encouragée par des personnes qui croient ce qu'elle fait et qui lui ressemblent. Victor, un autre garçon, actif sous le pseudo « Sorcier de la pluie », avec 47 000 abonnés au compteur, a pour sa part fait le choix de ne pas cacher sa pratique à ses proches et en a fait un mode de vie. « Mes parents, dit-il, ils acceptent. Je leur ai laissé le choix en étant transsexuel, explique-t-il. Je ne leur ai donc pas non plus laissé le choix en étant sorcier. » Alors, en s'intéressant à la sorcellerie, Victor et Nausicaa, tous les deux, ont rompu avec la religion qui pratiquait la religion catholique, après avoir été élevée dans ses valeurs. La jeune fille a été baptisée et a fait sa première communion, et dit « J'ai toujours cru en Dieu jusqu'à ce que je réalise ma bisexualité », explique-t-elle. La sorcellerie permet, selon elle, de vivre une forme de spiritualité, mais assortie de moins d'impératifs. « Avant, j'étais croyante, dit-elle, mais maintenant, je ne suis plus chrétienne, je suis païenne au panthéon grec. » Rien que ça. Voilà. Alors bon, il y a des bougies, il y a des fêtes païennes, Lita, Hadès, Athéna, etc., toutes ces déesses grecques. Les sorciers de TikTok ressuscitent des divinités grecques, celtes, comme par hasard, tout ce qui fait partie d'un pays dans lequel ils sont, tout ce qui est mythologie païenne. Beaucoup revendiquent leur sensibilité et la longue histoire de la sorcellerie dont ils estiment être les représentants modernes. Ils évoquent particulièrement les épisodes les plus sombres de chasse aux sorcières du XIVe et du XVIIIe siècle, qui a entraîné des dizaines de milliers de condamnations à mort par l'Église de l'époque. Donc, oui, ils s'associent à ça pour dire voilà, nous, maintenant, on est libre de nous exprimer là-dessus. Cette histoire faite de persécution a amené les membres de la communauté à s'engager dans d'autres causes qui leur semblaient similaires. C'est là qu'on voit le transfert sur l'actualité. Et c'est notamment le cas de Black Lives Matter. Alors c'est très intéressant parce que, vous voyez, il y a un engagement politique en plus. Et la discrète communauté a attiré l'attention en se mobilisant et en donnant des conseils pour jeter des sorts aux policiers, des sorts de protection pour les manifestants et de malédiction aux policiers. Vous voyez jusqu'où ça va. Ça va utiliser l'actualité avec la sorcellerie qu'on a appris. Et c'est pourquoi même Trump, qui relaie ses sorts sur Twitter, rentre dans ce combat de sorcellerie. C'est hallucinant. Alors qu'il est censé être mis en place par Dieu, si on écoute les évangéliques de la Maison Blanche. Vous voyez, on est dans une société qui part complètement à la dérive, y compris au plus haut niveau des États. Alors, autre raison du succès, c'est qu'ils pensent que c'est instantané. Et aujourd'hui, on aime l'instantané. Le café instantané, l'argent instantané, etc. Cette soudaine publicité qui a amené des utilisateurs à s'intéresser à cette sorcellerie 2.0 ou même à la pratiquer, ce sont des baby witches. Ils appellent ça des sorciers sorcières bébés. Voilà, bébés. Et ces jeunes sorciers sont initiés sur TikTok, se sont mis à échanger avec ceux qui pratiquaient la sorcellerie depuis plus longtemps pour apprendre des anciens sorciers. Alors que lui s'est intéressé à la sorcellerie pour sa dimension spirituelle, Victor remarque avant tout, chez ses sorciers apprentis, un désir d'avoir la main sur un environnement de plus en plus incertain. Et c'est vrai qu'on est dans des crises. Personne ne sait où on va, quand est-ce que cette pandémie s'arrête, etc. Donc c'est angoissant. Et toute période angoissante de crise amène effectivement les gens à rentrer dans une dimension spirituelle pour chercher des solutions que les politiques ne trouvent pas. Puisque voilà, on les critique pour leurs allées et venues, atermoiements, etc. Alors que là, on a une solution. Certains y voient une manière de simplifier leur vie en apprenant des sorts, pour être plus concentrés, pour maigrir, d'autres d'agir sur ce qui les entoure. Ils ont besoin de contrôler quelque chose dans leur vie, de ressentir un sentiment de puissance, dit lui-même Victor. Il y a une TikTokeuse qui partage un sort pour maigrir, par exemple. Jérémy pratique la sorcellerie depuis 12 ans et juge sévèrement ces jeunes sorciers qui se sont entichés de ce mouvement. Ils pensent qu'ils vont jeter un sort et qu'ils vont avoir ce qu'ils veulent de manière instantanée. Ils veulent de la fast magique. La magique rapide, hein, fast food, fast magique. Donc ils critiquent ça. Ils pensent que c'est quelque chose qui enjolive la vie et la rend plus sympa. D'après Victor, cette différence ne serait pas seulement liée à une différence de maturité, mais à une volonté marquée d'avoir un impact sur la société. Donc vous voyez, on rentre dans le politique. Donc il y a actuellement des débats sur le racisme et ils veulent y prendre part. Beaucoup de débutants ont un syndrome du sauveur. Ils veulent venir au secours de l'humanité, faire en sorte que la vie devienne une utopie. Alors bien sûr, c'est présenté sous cet angle-là. Sauver le racisme qui se trouve dans la société, etc. On a tous connu, hein, dans l'adolescence, cette volonté de changer la société parce que nos aînés ont failli. Mais vous voyez, là, on va beaucoup plus loin puisqu'on utilise des instruments qui sont prohibés, bien sûr, par la Bible. Alors, qu'en dit la Bible ? Juste un dernier mot pour parler de Malraux. Malraux qui était, au temps de Gaulle, le ministre de la Culture. Et il avait dit quelque chose qui avait été repris, qui avait été dénoncé, enfin peu importe, mais apparemment il l'a dit. Le réenchantement du monde est au rendez-vous au XXe siècle. Le XXe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Donc en fait, quelque part, il a dit, voilà, le 21e siècle sera spirituel. Voilà. Sauf que il n'a pas dit qu'il sera de source occulte, hein, bien que lui-même était en lien avec pas mal de personnes dans l'occulte. Et c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui a été annoncé dans la Bible. Dans la Bible, il dit que dans les derniers temps, la société ressemblera à celle de... Vous connaissez la Bible ? À celle de quoi ? Il y a une ressemblance, une analogie entre la nôtre et celle de Noé. Celle de Noé, Timothée, etc. Et qu'est-ce qui est passé à Noé ? Pourquoi il y a eu le déluge ? Parce que le monde était rempli de démons. C'est-à-dire, les démons descendent sur la terre. Et quand vous pratiquez la sorcellerie, c'est pas juste magique, hein, c'est qu'il y a des conséquences derrière, il y a des choses qui agissent sur les commandes que vous leur faites, les sorts, voilà, en bien ou en mal, peu importe, mais ils agissent et ça s'appelle les démons. Et donc plus les démons descendent sur la terre, et bien plus la terre deviendra invivable, parce qu'on sait que celui qui commande ces démons, eh bien, c'est pas le Christ, hein, c'est quelqu'un qui veut détruire l'humanité et qui veut élever l'homme vers sa propre gloire à la place de Dieu. Donc notre monde actuel s'enthousiasme pour les sous-produits de l'occultisme. Voilà, j'étais un peu long au départ pour vous montrer que voilà, c'est pas marginal, c'est pas passager, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui se fait à 2,4 milliards de personnes, enfin, vous voyez, et qu'il faut le prendre en compte si on veut comprendre où va le monde et comment nous réagir, et en particulier dans la prière. C'est pour ça qu'on commence cette semaine un temps de prière pour un réveil, parce qu'on a besoin d'être réveillé spirituellement et pas d'être endormi par cette spiritualité occulte. Il n'est plus aucun secteur de l'activité humaine qui ne soit pas hanté par le surnaturel. On cherche du surnaturel. Les médias, donc vous passez des médias, on cherche d'université, aux médecines, aux disciplines du bien-être, des jeux d'enfants, les loisirs des adultes, de la politique au monde du travail, partout l'ésotérisme, donc le secret, s'impose comme un ingrédient qu'on laisse rentrer et qui est le bienvenu. Alors que signifie ce parti pris ? C'est un parti pris, c'est une obsession. Hein. Faut-il s'en inquiéter ou se réjouir d'un regain d'intérêt pour les choses spirituelles? Parce que certains disent, oui, c'est bien, les gens s'ouvrent au spirituel, c'est le moment d'annoncer l'évangile. Oui, oui, bien sûr. Mais il ne faut pas être naïf, hein, c'est qu'il n'y a que ceux qui acceptent l'évangile qui seront sauvés, pas ceux qui s'y intéressent, hein, mais qui la transforment, qui en font un autre évangile. Pourquoi ? Parce que le serpent qui nous est présenté dans la Genèse, qui a opéré depuis l'origine, était déjà à l'époque parvenu à faire croire que Dieu avait délibérément privé l'homme et la femme des meilleures bénédictions. Il a ce pouvoir qu'il a toujours, qu'il utilise toujours. C'est un discours qui s'est trouvé être mensonger et mortel. Mais alors, qu'espérer en lieu et place des ombres de l'occultisme et toutes les chimères de ce calomniateur? C'est que les descendants du premier Adam, que nous sommes, cherchent opiniâtrement dans l'occultisme, comme dans toutes sortes de succès d'années du salut. Hein, donc on cherche le salut. Alors vous voyez, ces jeunes, ils pensent qu'ils vont sauver la planète. Vont sauver le racisme, etc. Voilà, ça leur donne de l'importance. Mais ils ne peuvent pas l'obtenir à cause du péché. Quand vous regardez toutes ces religions, tout ce qu'on met dans un pot commun, ça s'appelle le Nouvel Âge du Verseau, hein, qui est lié à l'astrologie du Verseau, eh bien, il y a un point commun. Et Maurice Ray, déjà il y a 50 ans, avait écrit ce livre sur l'occultisme que j'ai beaucoup étudié, parce que c'était quelqu'un qui était très connu dans le monde évangélique. Et il disait qu'il a étudié à l'époque, son époque, toutes les choses occultes qui sortaient. Et il y a deux choses qui ne se trouvent jamais dans la littérature occulte. C'est le mot péché et le mot repentance. Voilà. Donc, tout le reste, piété, amour, Dieu, Jésus, tout, vous trouvez tout, vous voyez, sauf ces deux mots. Et ça m'a interpellé. Je dis, ah, ça, c'est une clé. Vous voyez, c'est une clé pour voir ceux qui sont du côté de Jésus ou du côté de Satan. Hein. Péché et repentance, c'est des mots à bannir parce que, eh bien, ça diminue l'homme, ça le rend plus, c'est humilie l'homme, etc. Alors que le second Adam, Jésus-Christ, que Dieu a envoyé sur la terre pour sauver l'humanité, eh bien, il nous sauve uniquement par la foi, simplement par la foi. Il suffit de croire, d'adhérer à son message. Hein. Alors il y en a qui disent, oh, c'est trop facile, trop facile. Souvent, des personnes répondaient ça, ouais, c'est trop facile, il suffit de croire. Mais oui, c'est justement parce que c'est tellement simple que celui qui est orgueilleux ne veut pas l'accepter. Et ça teste l'orgueil. La Bible dit qu'il n'y a tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, dans Romains. Un autre passage nous dit « Comme par la désobéissance d'un seul homme, donc Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, et de même, par l'obéissance d'un seul, Jésus-Christ, ils seront rendus justes. » Tout à l'heure, Michel parlait de... Comment il s'appelle ? Le juste, le traître ? Edmond, le traître qui devient juste. Et c'est une grâce. C'est pas un produit de ses efforts, etc. Un autre passage dans Romains dit « Le don gratuit de Dieu, le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et un dernier passage que je vais citer dans Éphésiens, « C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. » Amen. Oui, c'est un don de Dieu. Il faut accepter les cadeaux de Dieu. Ce fondement, quand il est posé, il est clair que l'offre de Dieu en Jésus-Christ surpasse de loin tout projet ésotérique et diabolique. de quelque nature qu'il soit. Car si la Bible dit vrai, son message est bien la perle du grand prix, hein, la plus désirable qui soit, et ceux qui sont enfants de Dieu, co-héritiers avec Christ, possèdent ces choses. Oui. Non seulement ils les croient, ils les possèdent, hein, c'est Romains 8, 17 et 1 Corinthiens 3, 22. Ils possèdent, on possède ces réalités en Christ. Alors qu'est-ce qu'on possède ? Ben, je vais citer 6 choses qu'on possède en Christ. Et justement, on n'a pas besoin de ces succès d'années ésotériques. Un, le savoir. Le savoir. On possède le savoir. Quel savoir ? Eh bien, en Jésus-Christ, il est dit que la sagesse divine s'est personnifiée en Jésus-Christ. On possède la sagesse. La sagesse, c'est savoir bien se conduire dans la vie. Vous voyez ? Alors, vous avez vu tout à l'heure, les jeunes cherchent à savoir comment se conduire et ils utilisent les sorts. Ils jettent des sorts. Voilà. On fait de la sorcellerie. Incroyable, ça. Après, vous étonnez hein, que vous ayez des problèmes dans votre vie. Parce que quelqu'un a un boulot, n'importe qui, ben, vous jette un sort. Hein. Moi, j'ai vu même dans l'église, il y en a qui jetaient des sorts. Hein. C'est pour ça que j'ai ouvert les yeux un peu hein, sur les choses qui m'entouraient. Hein. Je suis plus naïf. Il faut se soumettre à Dieu. Il dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Crainte de Dieu, Dieu interdit toute chose occulte. En Jésus-Christ, la sagesse divine est personnifiée, et il est dit dans Colossiens que dans cette personne de Christ, qui est la sagesse, sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, la connaissance, du savoir. Il est Dieu de toute éternité. Tout a été fait par lui et tout subsiste en lui. Comment douter de la supériorité infinie de Jésus ? Avoir foi en lui, c'est vivre dans la certitude que toute connaissance qui est encore cachée, puisqu'on ne connaît que dans un miroir déformant, hein, on connaîtra tout quand on sera dans sa présence, voilà, toute connaissance encore cachée à nos yeux lui sont parfaitement familières. Il connaît toutes choses. C'est pour ça qu'il peut intervenir dans nos vies, intervenir. Vous voyez, la semaine dernière, le frère, il a fait prier l'assemblée pour moi. Ah ben, je peux très bien voir les médecins dire, ben, il n'y a plus rien. Hein. Mais ce n'est pas pour autant que je ne me soumets pas à la science, parce que voilà, la science va confirmer ce que Dieu a fait. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir peur de la science. La science ne fait que observer les choses et déduire un certain nombre de conclusions. Mais tout est connu par Jésus. Tout est connu, parce que c'est lui qui a créé toute chose. Tout subsiste en lui, tout a été créé par lui. Avoir foi en Jésus, c'est vivre dans la certitude que toute connaissance cachée, il la connaît, toute révélation qu'il nous accorde est parfaitement digne de confiance. Cette sagesse divine se plaît à se rendre compréhensible au plus simple, et non à quelques grands initiés qui vont initier d'autres, vous voyez, les baby witches, etc. Non, ça ne marche pas comme ça. Le plus petit, le plus ignare de la planète, qui ne connaît peut-être même pas le béaba de la langue, eh bien, il peut connaître cette sagesse. Michel, qui a eu la chance de vivre la fin du réveil de Pentecôte en France, très souvent, elle allait avec ses parents écouter des sous-tentes, des réunions d'évangélisation des gitans. Ben, les gitans, il y en a qui ne pouvaient même pas écrire. Ils signaient par une croix, vous voyez, quand ils avaient besoin de faire un truc officiel. Ils ne pouvaient pas de signature, ils n'avaient rien. Ils signaient une croix, quoi. Ah ben, quand ils recevaient Jésus, c'était des personnes transformées. Complètement transformé. Il y en a même qui, ne sachant pas lire, ils ont reçu le don de lire, comme ça, spontanément. D'un seul coup, ils ont lu en français. Voyez-vous, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Vous le croyez? Rien n'est impossible à Dieu. Sauf qu'on ne le commande pas. Hein, on ne commande pas Dieu comme on commande son chien. Hein, c'est ça la crainte de Dieu. C'est qu'on laisse Dieu agir, il fait des miracles. Ou il n'en fait pas. De toute façon, le miracle, ça ne s'appelle pas un miracle dans la Bible, je vais prêcher là-dessus, c'est un signe. C'est le signe. Ça montre la puissance de Dieu. C'est pas le miracle pour le miracle, c'est le miracle pour montrer qu'il y a le royaume de Dieu qui est là, qui est déjà là, pas encore pleinement, mais qui agit déjà dans le monde. Alors pour revenir au savoir, hein, ce savoir, cette sagesse divine, se plaît à devenir compréhensible, c'est au plus simple. Et c'est pour ça que Jésus parlait en parabole, parlait en symbole, parlait en métaphore. Et C.S. Lewis a reçu cette grâce aussi d'expliquer le message du salut en métaphore. Hein. Et Narnia, c'est dommage, certains chrétiens, parfois, ils ne voient même pas que c'est le message de la rédemption. Parce qu'on n'est plus habitué au symbole. Bien que la langue soit symbolique. Quand je dis un arbre, dans votre cerveau, vous voyez un arbre. Si je dis un chêne, vous voyez le chêne. Si je dis un bouleau, vous voyez le bouleau. Parce que ça renvoie à une réalité. En soi, il n'est pas là, l'arbre. Il n'est pas devant vous, le chêne. Mais vous le voyez. Vous voyez, c'est un symbole. Le langage est un symbole. Et l'image est encore plus symbolique. Parce qu'elle renvoie à différentes réalités. Parabole, voilà, du riche, etc. Enfin, toutes les paraboles de Jésus peuvent être interprétées différemment parce que justement c'est symbolique et ça a plusieurs interprétations. Notre Dieu est grand, il est merveilleux et tout son savoir est en lui. Et j'en parlerai à l'université d'été longuement sur cette centralité de Christ dans toute la création. Il est dit dans Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande, hein, et qui donne à tous libéralement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Formidable. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin d'avoir des bacs plus 5 ou 10 ou 20 pour comprendre et vous comporter sagement dans la vie, parce que Dieu la donne. Dieu vous la donne. Amen. Enfin, je voudrais juste conclure ce passage, cette sagesse est fiable, car elle est accomplie dans l'œuvre de Christ à la croix. Elle procède de l'amour du Père, qui ne souhaite voir se perdre aucune de ses créatures. Il a souci de chacun de vous, de chacun de nous, de chacune de ses créatures qui ne se perdent pas. Ça, c'est l'amour du Père. Et elle engendre la communion avec la personne de Christ, par le Saint-Esprit et par la parole. Vous voyez, tout ça, ça fait une unité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la parole. Elle se trouve aux antipodes d'une science purement sortie du cerveau, centrée sur l'homme, sur ses besoins, et désespérément horizontale. Elle est verticale, cette sagesse. Vous pouvez lire dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, versets 20 et 31. Deuxièmement, ce que Dieu donne, ce que Christ nous donne, c'est la vie. Le savoir, la vie. La vie. Le salut de Dieu est accessible à une meilleure qualité de vie. Dieu veut nous élever au travers de la connaissance de Christ, à une meilleure qualité de vie. Ce que tout le monde cherche, surtout dans ces temps de crise. Encore moins à une simple apparence de spiritualité. C'est dramatique, cette spiritualité de sorcellerie, vous voyez, qui est une spiritualité d'enchantement. Je vais voir des elfes, des chants, des machins, je peux rentrer dans des rêves, parce que bon, il y a tout l'aspect aussi derrière de la magie, derrière la sorcellerie. Différence entre magie et sorcellerie, c'est la magie, elle rentre dans le monde de l'enchantement, et la sorcellerie, elle contrôle le monde, c'est beaucoup plus grave parce qu'elle veut changer les choses avec l'ésotérisme. La vie de Dieu en Jésus-Christ veut nous amener à une meilleure qualité de vie, encore moins une simple apparence de piété. Le divin berger a prévu que pour ceux qui le suivraient, il serait lui-même une vie abondante, inépuisable, pleine de sens. Il dit, moi je suis venu afin que les bruits aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jean 10. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Que voulez-vous de plus? dans ce temps de canicule, eh bien, l'eau de Jésus ne donnera plus aucune soif. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, 12. Si donc un incroyant, quelqu'un qui ne croit pas, veut passer par une nouvelle naissance spirituelle, il faut venir au ressuscité, celui qui est vivant, celui qui est passé des morts, de la mort à la vie, au travers de la repentance et de la foi. Si un croyant se sent chancelant, il se sent privé de vie, il se sent faible, tout ça, timide dans son témoignage, stérile dans sa vie de prière, eh bien, il faut se réfugier dans le Seigneur de la vie. Amen. Et Marie-France l'a un peu exprimé l'autre jour, ceux qui sont convertis depuis 30 ans, 50 ans, moi c'est plus de 50 ans, ont besoin de retrouver ce premier amour. Parce que l'amour, c'est dans le mariage. Le premier amour, c'est passion. C'est la passion. On ferait n'importe quoi pour s'adulciner. Et c'est la passion. Mais Jésus, il veut qu'on ait cet amour passion. Et il faut qu'il revienne. Parce que c'est la vie. On expérimente cette vie. Parce qu'on est participant à la nature de la vie de Christ. Troisième chose que Christ donne, c'est la plénitude. Savoir, la vie, la plénitude. La vie chrétienne s'élève vers une meilleure plénitude. Tout le monde cherche la plénitude aujourd'hui. Même si la vie est parsemée d'épreuves, d'apprentissages parfois douloureux, dur, laborieux, de renoncement à soi-même et même d'échec, la finalité de tout cela ne doit jamais nous échapper. Parce que Dieu nous aime et désire nous faire participer à sa sainteté, à sa perfection morale. Parce que Dieu est aussi un être moral. En lui, il n'y a que le bien, il n'y a pas de mal. Or, en nous, il y a les deux, parce qu'on est pécheurs. Donc, il veut nous faire participer à sa perfection morale, et ça, c'est la plénitude. Tout le monde, dans le monde entier, pas chrétien, tout le monde espère une société sans guerre, sans conflit, sans pauvreté, sans tout ça. Voilà, c'est le rêve de tout le monde, mais Dieu le donne. Il veut nous élever à cette meilleure plénitude de la vie. Mais c'est participer à sa sainteté parce que c'est la conséquence, c'est la cause de la meilleure vie. C'est qu'il n'y a pas de mal en lui. C'est l'arbre de la vie. Alors que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre de la connaissance. Sur les traces de Christ, en qui habite en permanence toute plénitude de la divinité, c'est dans Colossiens 2,9 que c'est marqué, Dieu veut que nous vivions dans la plénitude d'une communion spirituelle avec lui et avec nos frères dans la foi. C'est pour ça que c'est tellement important d'être en présentiel, de se voir, de discuter, et d'être ensemble. Parce que c'est le cœur de Dieu. C'est une communion fraternelle et une communion spirituelle avec lui. Les deux vont ensemble. Parce que Jésus-Christ est venu en chair pour participer à notre humanité. Tout croyant qui est authentique et qui a commencé à goûter à cette réalité dès le moment où le Saint-Esprit a fait sa demeure en lui. Et c'est ça le début de l'amour, du premier amour. Moi, je me rappelle très bien, quand le Saint-Esprit est venu, c'est la bombe atomique. Vous n'êtes plus là, quoi. Vous n'êtes plus là. D'ailleurs, j'ai même décollé... physiquement, j'étais pas là, quoi. J'étais dans la présence de Dieu. Ça a duré des semaines et des semaines. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce, dit Jean, dans 1 Jean 16. Malheureusement, nous devons reconnaître que ce même esprit peut être amoindri. On peut attrister le Saint-Esprit, vous le savez ? Vous savez ? Et en l'attristant, cette passion diminue, parce que c'est la passion de l'amour, c'est lié au Saint-Esprit et à la présence du Saint-Esprit. C'est pour ça les pentecôtistes, parler en langue, comme signe initiateur au début, c'est un peu controversé, mais vous êtes tellement rempli que votre langage ne peut plus exprimer la beauté de Dieu, et c'est dans le parler en langue que vous exprimez des choses absolument profondeur que vous ne vous-même comprenez pas, mais que les autres comprennent. Ils se disent, mais il a parlé des merveilles de Dieu, diront les premiers, ceux qui écoutaient Pierre quand il a pris la parole. Mais il parlait merveilles de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit peut attrister, et c'est ce qu'il est. C'est ce qu'il est en permanence, parce qu'on est pécheur. Quand on se relève, il se réjouit, mais voilà, il faut toujours se relever et pas persévérer dans l'erreur, pas persévérer dans le déni. Bon, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut avoir un esprit d'humilité, comme David l'avait. David a accepté son erreur quand le prophète est venu. Saül ne l'a jamais accepté. Il n'a pas terminé pareil que David. Lorsque nous marchons dans la dépendance de Christ, l'Esprit de Dieu nous remplit de force, d'amour et de sagesse, dira Paul à Timothée dans 1 Timothée 1, 7. La plénitude du chrétien, ne se limite pas à un sentiment d'amour, comme celui que décrivent certains spiritualistes occultes. Dans l'occultisme, ils parlent d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Ils chantent même pure love, pure love, pure love, j'ai entendu ça. Voilà, les spiritualistes, les mystiques et tout ça. Mais elle est organiquement dépendante d'une connaissance. La plénitude, elle est dépendante de la connaissance de la parole. On ne peut pas la séparer, parce que Jésus a dit, ma parole, elle demeure. Le ciel et la terre passeront, on parle demeure. Donc on ne peut pas renier les paroles de Jésus. La plénitude est basée sur la parole. Donc il faut connaître aussi la parole. Et on ne peut pas vivre juste du mystique sans l'obéissance et la connaissance de la parole. Et ça, c'est un point important dans le discernement des fausses doctrines. Troisième chose, quatrième, c'est une conscience libérée. Dieu nous donne une conscience libérée en Jésus, parce qu'il nous libère d'une culpabilité. Je me rappelle d'un message de la prophétesse, oh là, j'ai le nom sur la langue et ça m'échappe, qui est d'Écosse. Anne Griffiths, voilà, ce message qu'elle a donné un dimanche matin sur la honte. La honte qui est tombée sur Adam et Ève, où ils se sont vus nus et se sont cachés, vous voyez, c'est la honte. Et cette honte, c'est la conséquence du péché. Et nous, on porte une honte ontologique, une honte qui est liée à l'être que nous sommes. Voyez-vous. Et cette honte nous fait courber, il y en a même qui sont carrément courbés comme ça, vous voyez, même des chrétiens, qui n'ont pas compris que Dieu nous a libérés en Jésus-Christ. Et c'est pas de l'orgueil, dans la mesure où on glorifie Jésus-Christ, qui est notre libérateur. Mais très souvent, on est courbé. Et la religion, toute religion, même chrétienne, eh bien, nous courbe. Il faut faire des bonnes œuvres, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et puis en fait, on n'en fait jamais assez, puisque, voilà, l'enseignement de la Bible, c'est que c'est un don gratuit. Donc c'est gratuit, j'ai rien à faire pour le mériter. Lorsque Dieu débusque et condamne notre péché, l'examen est redoutable. Par nature, nous préférons esquiver ce moment. On veut se cacher derrière les feuilles de vigne, ou encore nous entraîner à éliminer les pensées de compte à rendre au juge qui va nous juger, à la fin. Tout est bon pour contourner ce face-à-face. Quand on est libéré de la honte, on peut être en face-à-face à Dieu. Parce que tout est effacé à la croix. Et c'est ça qui donne le caractère du chrétien, qui n'est pas l'orgueil, mais qui est la présence en Christ. Tout est bon pour contourner ça, Je citais l'accumulation de bonnes œuvres, la récolte, la révolte, le sarcasme, les fausses doctrines, la recherche de circonstances atténuantes, etc. Le miracle de la grâce permet de ne pas éluder le verdict de Dieu. L'histoire, elle est écrite, si vous voulez, mes amis. Elle est dans la Bible. On sait que Christ est venu sauver l'homme, mais il viendra pour juger. Donc l'histoire est écrite. Nous, si nous sommes libérés de notre honte, de notre culpabilité, on n'a pas besoin d'avoir peur de cet événement. Mais sinon, on peut trembler. Mais nous savons que lorsque nous disons « oui, Jésus-Christ, je t'ai accepté », Jésus-Christ va dire « oui, c'est mon enfant » et passera outre le jugement de Dieu. Mais le jugement de Dieu est une réalité. Et c'est pour ça que les hommes aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de péché parce que derrière, il y a le jugement. Ils ne veulent pas. Il ne veut pas accepter cette finalité de l'histoire qui se termine par le jugement. C'est pour ça qu'il y a ce combat spirituel en ce moment dont j'ai parlé au début. Mais les fausses persuasions du monde occulte, parce que c'est une persuasion mais qui est fausse, ne sont qu'une variante de tous les stratagèmes que Satan a utilisés par l'être humain pour se délester de la culpabilité originelle. Qui est là dans l'ancien Adam, dans notre chair. Or, seule la purification opérée par le sang du Christ peut nous valoir cet acquittement. La conversion à Christ, la libération et la libération de la culpabilité du péché deviennent réelles, effectives. Nous commençons à pouvoir servir Dieu dans un esprit nouveau. Nous pouvons l'adorer en esprit et en vérité, sinon on ne peut pas. On ne peut pas l'adorer en esprit, en vérité, si nous ne sommes pas libérés de cette culpabilité. Non, dans cette crainte servile de mercenaire, mais dans un esprit filial. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne sommes pas à la solde de Dieu, nous sommes fils et filles. Nous sommes adoptés, sachant que notre Père céleste et son esprit collaborent à notre perfectionnement dans la foi. Avant-dernier point, c'est la satisfaction, être satisfait, le bonheur, la question du bonheur. Tout le monde cherche le bonheur. C'est la recherche principale de la philosophie, trouver le bonheur. Alors, les stoïciens, les autres, je ne m'en rappelle plus, etc. Enfin, il y a différentes écoles pour trouver le bonheur. L'occultisme en général donne deux réponses à la question. Notre bonheur dépend-il de Dieu ? Soit on répond non, il ne répond pas de Dieu, parce qu'il s'oppose violemment à Dieu. Alors ça, c'est les mouvements satanistes, ils s'opposent à Dieu. Et voilà, ils suivent un mouvement sataniste, ça existe, et très souvent, ça se termine très mal, des suicides collectifs ou autres. En tout cas, c'est pas très beau. Ou alors, on répond oui à cette question. Sauf qu'on ajoute quelque chose à condition de connaître certains secrets. Et c'est ça, l'ésotérisme. C'est le secret. Des choses cachées, c'est ça. L'occultisme, c'est ça, la sorcellerie, c'est ça. Tu peux être heureux, oui, ça vient de Dieu, donc Dieu est utilisé, aucun problème. Mais il faut connaître certains secrets qui permettent de contribuer à travers des dons surnaturels. Alors, ils sont peut-être en toi, les dons surnaturels. Tu peux les trouver, les utiliser. Tu as peut-être un don de voyance. Tu as peut-être un don pour faire de la magie blanche, pour jeter des sorts, etc. Tu as des dons, vous voyez. Et c'est comme ça qu'il attire les gens dans certains rituels et autres devoirs religieux. La réponse biblique. La voici. Dieu n'a pas de plus grande ambition que de se glorifier à travers l'œuvre de son Fils en faveur de sa création. Qu'elle soit humaine ou qu'elle soit toute la création, elle souffre. Et toute la création va être refondée à cause du péché. Et cette œuvre exclut l'appel à tout ce qui est occulte. Exclut tout ce qui est occulte, tout ce qui est secret, qui vient de l'ennemi pour rajouter quelque chose à ce que Dieu a fait. Quel qu'il soit, parce qu'il repose sur des conceptions complètement déconnectées du cadre dans lequel Dieu permet à ces créatures de fonctionner et de se réaliser. C'est pas quelque chose qui n'existe pas, hein. L'occulte, tout ce que les gens apprennent maintenant, voilà, avec le TikTok et autres, etc., ça a toujours existé. Et c'est quelque chose que Dieu a fait. Sauf qu'il ne permet pas de l'utiliser parce que c'est corrompu et qu'on n'a pas la capacité de discerner dans cette dimension, qu'on appelle quatrième, cinquième ou sixième dimension, hein, donc une dimension métaphysique, hein, au-delà de la physique. Eh bien, dans cette dimension, on peut faire des choses, évoluer, et voilà, des choses magnifiques, merveilleuses, donc ça c'est la magie, ou de sorcellerie, c'est-à-dire voilà, jeter des sorts, et on voit que ça marche. Ceux qui apprennent des sorts, hein, et qui sont dedans, ça marche, hein, je peux vous garantir. Hein. Je parle pas des conséquences, mais ça marche. Et c'est pour ça que ça a beaucoup tellement de succès. Mais ça nous est interdit dans la Bible. Alors je ne reviens pas sur nombre et le nombre de fois où la Bible nous l'interdit. Mais je préfère expliquer pourquoi ce n'est pas possible. Parce que Dieu sait que c'est dangereux pour nous et que de toute façon on sera soumis au prince de ce monde et qu'on n'aura pas le dessus. Donc c'est interdit. Et c'est pour notre bien que c'est interdit. Et Jésus lui-même a démontré sa propre satisfaction, hein, parce qu'on est dans le bonheur, satisfaction, et cette satisfaction était indissociable de la soumission qu'il avait à son Père. Il a dit dans Jean, « Ma nourriture est de faire la volonté de Dieu. » Ceux qui vivent selon son exemple peuvent éprouver les mêmes sentiments de satisfaction. Ce n'est pas le cas pour vous ? Quand vous êtes dans la volonté de Dieu, vous vous sentez satisfait. Voilà. Jésus dit, je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La place des joies terrestres, où est-ce qu'elle est ? Alors on dira, ah oui, mais il faut vivre comme des moines et tout ça. Hein ? Où est la joie du bonheur terrestre ? Et bien, dans l'optique biblique, il n'y a pas de raison de croire que le chrétien ne doit se désincarner, voilà, il doit devenir un ange, hein, d'ailleurs qui fait l'ange fait la bête, pour plaire à Dieu. Non ? On peut profiter de la vie. Toute chose légitime recèle son lot de satisfaction, donc que ce soit les loisirs, relations humaines, le mariage, la famille, les activités professionnelles, jouissant de la nature comme on le fait pendant les vacances, et jouir de ses productions dans l'art culinaire, etc. Comme je disais, aller voir les bourguignons, et on mangerait bien. La créativité artistique, l'habileté artisanale, l'habileté sportive, etc. Tout ça, c'est bien. C'est bien. Mais l'Écriture nous invite à faire des priorités, c'est tout. À mettre une juste place, mettre les choses à leur place, et à faire preuve de prudence et de sobriété. Si vous prenez trop d'alcool, un petit peu, c'est bien. D'ailleurs, même Paul le recommande à Timothée, mais trop, vous savez plus ce que vous faites. Donc, après, vous étonnez que vous puissiez avoir des problèmes, parce qu'il y en a peut-être qui profiteront de votre ébriété pour vous amener à autre chose. Donc, c'est juste place, hein, à faire preuve de prudence pour s'attacher et rechercher, au lieu de chercher égoïstement son confort et ses aises, et bien chercher la volonté de Dieu et chercher à lui plaire. C'est pour ça aussi on invite les chrétiens à venir en présentiel quand c'est possible, parce que voilà, c'est un peu confortable, c'est un confort qui n'est pas bien placé dans ce cadre-là, de rester chez soi quand c'est possible de venir. Parce que Dieu a dit, venez dans ma maison pour me rencontrer et rencontrer les frères et sœurs. Voilà. Et c'est aussi un sacrifice de se lever, c'est un sacrifice de faire des kilomètres, c'est un sacrifice, voilà. Mais voilà, ça fait partie de l'obéissance de ce que Dieu recommande à ses enfants. Dans le temps présent, la paix de Dieu, la paix en Dieu et le contentement l'esprit de contentement, l'esprit de gratitude, de confiance, sont l'expression d'une bonne satisfaction. Et ça, on l'a perdu parce qu'il y a la pression d'acheter avec toute la publicité, d'acheter ceci, d'acheter cela. Ça fait bien sûr travailler la Chine. Mais voilà, on jette des trucs, on en rachète, etc. C'est bon, du matériel. Et ça ne rend pas satisfait, en bout du compte. Enfin, la liberté. Je termine par la liberté. Lorsque le diable tenta Jésus, en lui promettant tous les royaumes de la terre, puisqu'ils lui appartiennent, dans la mesure où c'est le prince de ce monde, il dit, il y a une condition, Jésus, si tu te prosternes et tu m'adores. Waouh ! C'est un deal. C'est un deal. Jésus était devant un deal. C'est-à-dire, où il devançait, parce qu'il savait que le Père allait lui donner les royaumes de la terre, en son temps. Mais là, tu vois, Satan, il devance la proposition du Père en lui disant, je te les donne. Voilà, je suis magnanime là, ok ? Une seule condition, que tu m'adores et tu te prosternes devant moi. Satan s'est trahi à ce moment-là. Et il dévoile pour la troisième fois, parce qu'il l'a fait trois fois, ce petit jeu avec Jésus, que ses propositions sont alléchantes et nous pouvaient conduire à une forme supérieure de liberté et d'indépendance. Voyez-vous, c'est cette séduction, quand on la saisit, on comprend la puissance du péché. Ou cette séduction du péché. Oui, dit Jésus, mais tu peux être encore plus libre, tu vois, tu peux surmonter tous les obstacles que tu vas vivre sur la terre, là, en ayant cette liberté, voilà, tu peux descendre, et puis tout le monde va t'acclamer, parce que les anges vont te porter, ce sera la magie extraordinaire qui va se produire devant les Israélites qui seront ébahis et ils vont t'accueillir comme roi. C'est très très subtil. Il veut nous conduire à une forme supérieure de liberté, comme s'il y avait une forme inférieure, une forme supérieure de liberté ou d'indépendance. Mais en fait, il le conduit vers une dépendance infernale, une dépendance de l'enfer, abjecte, d'une personne corrompue comme le diable, qui veut qu'on l'adore et qu'on se mette devant lui. Vous voyez, c'est absolument horrible quand on voit la face de qui aurait attendu Jésus s'il avait craqué. Et Jésus lui répliqua. Alors c'est ça qui est intéressant, pour nous, pour notre application personnelle, hein, parce qu'il faut appliquer la parole comme on l'a dit précédemment. Eh bien, Jésus lui répliqua en lui signifiant que la vraie liberté, que la vraie indépendance à lui, fils de Dieu, c'est d'adorer son Père céleste et de le servir. Hello ? C'est d'adorer Dieu et de le servir. Et ça, c'est la crainte de Dieu. Et ça, mes amis, on l'a perdu. Il faut la retrouver. Les suggestions aguichantes de l'ennemi, de l'ésotérisme, comme on a parlé avec les jeunes qui sont plongés là-dedans, plus de 2,4 milliards d'abonnés à ce hashtag, eh bien, véhiculent toujours le même message. Vous voyez, l'ennemi, il est ennuyeux, parce qu'il fait toujours les mêmes choses. Et c'est pour ça qu'en tant que serviteur de Dieu, moi je vois l'ennemi quand il agit, parce qu'il y a des patterns qui ne changent pas. Dieu, vous ne pouvez pas le saisir, parce qu'il fait toujours les choses différentes. Un jour, Jésus, il guérit un malade en lui mettant de la boue. Puis un autre jour, il lui dit, va et tu es guéri, etc. Et les serviteurs de Dieu qui veulent faire des méthodes, alors ils mettent toujours de la boue, ou ils crachent, ils mettent de la boue, etc. Ou ils crachent dans le micro, parce que voilà, c'est comme ça qu'il y a eu une guérison. Non, Dieu est infiniment varié, il n'a aucune limite à sa créativité. Alors, c'est ça notre Dieu. Ce n'est pas un Dieu qui est obligé d'être dans des rails pour faire... Satan est obligé, parce qu'il n'a aucune créativité. La seule créativité qu'il a, c'est de détruire. Alors là, tout le monde peut le faire. Mais il le fait avec tellement d'astuces que les gens se laissent avoir, parce qu'il séduit avant de détruire. Donc les suggestions aguichantes de l'ésotérisme véhiculent toujours le même message. Venez acquérir un outil efficace pour mieux gérer votre vie. Ça vous dit quelque chose ? Développement personnel. Ça se trouve partout. dans au business, partout, etc. Développer votre truc. Tout ça pourquoi ? Parce que pour que l'argent tombe un peu plus vite dans les caisses des actionnaires ou autres. Vous voyez, c'est toujours indirect de la pensée qu'on vous fait valoir sur vous. En fait, c'est pour que d'autres en profitent. Venez vous entraîner à façonner votre avenir, à influencer les autres, à communiquer avec votre ange gardien, etc. Il y a quelqu'un qui est super, là, si vous voulez l'écouter, c'est la petite fille de Louis de Funès, qui va dans les entreprises. Elle est géniale, un peu comme son père, enfin, son grand-père. Voilà, mais elle présente ça de manière très, 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 très bien. Tous les coachs, tout ce qu'il y a derrière le coaching, etc. Elle n'est pas du tout chrétienne, hein, mais c'est pour montrer qu'il y en a qui voient clair, hein, derrière tous ces discours qui vous influencent vers plus de liberté, plus de capacité, plus d'autonomie, etc. Mais nous sommes en plein marché de dupes. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, il est hors de question de parler du péché, même si vous en parlez, eh bien vous passez pour un drôle de gars. Hein. Vous vous faites éliminer de la course parce que le péché demeure entier dans l'ésotérisme. Et l'homme est esclave du péché, vous saviez ? C'est la Bible qui le dit. À toutes ces offres trompeuses, Jésus oppose un autre message. Il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et c'est la vérité qui vous rendra libre. En vérité, dira Jésus, je le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre, dira Jean. Les propos du Seigneur ont de quoi scandaliser notre logique humaine. Et là, je reviendrai là-dessus dans l'université d'été. Pourquoi ? Parce que le message que Jésus envoie, c'est qu'il faut être en même temps disciple, c'est-à-dire esclave du maître, être au pied du maître, et libre. Waouh ! Ça heurte l'entendement humain. L'entendement humain, la liberté, c'est être libre. C'est pas d'avoir des maîtres, d'avoir des esclaves. Vous voyez, c'est encore du racisme à rebours. Non, mais c'est Jésus. C'est pour ça que c'est pas accessible, l'évangile, à la logique humaine. Parce qu'il va à l'encontre de la logique, parce qu'il y a deux choses opposées qui doivent être vécues en même temps. Ces deux termes, disciple et libre, sont des termes qui s'excluent mutuellement, sont antagonistes, sont opposés. Eh bien non, dans la logique de Christ, c'est ça qui nous rend réellement libres. De même que celui-ci ne faisait rien de lui-même. Jésus ne faisait rien de lui-même. Il était esclave, quelque part, du Père. Il se référait en toute situation à son Père. Il faisait ce qu'il voyait faire au Père, vous voyez. Donc, on va dire, il n'était pas libre. Ben voilà. Définition de la liberté, c'est à l'opposé de ce que les hommes comprennent naturellement. Mais il ne laissait jamais le péché dominer sur lui. C'est là la particularité de Jésus. Parce qu'il a vaincu le péché. Et c'est pour ça qu'il a pu ressusciter à la fin, parce qu'il n'a jamais péché. Personne ne m'ôte la vie, dit Jésus. Personne. Mais je la donne de moi-même. Voyez-vous, il n'est pas dépendant de quelqu'un, il la donne. Et ça, c'est la liberté, la responsabilité d'un être humain qui est selon Dieu. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jésus ressuscité. De même que celui qui se laisse sauver par Christ devient disciple, Paul dira esclave, il est aussi serviteur de Christ, mais c'est alors qu'il goûte à la vraie liberté. Celle de l'amour qui est consenti, qui a accepté et qui est vécu. À l'abri de cette alliance éternelle, l'homme accède au véritable repos, à la seule interaction avec le monde invisible qui soit conforme à sa nature originelle, le repos de Dieu. Et nous avons besoin de vivre le repos de Dieu, le repos du septième jour, le repos que Dieu lui-même a instauré dans sa création, le repos pour venir dans son temple et laisser les activités. C'est ça le principe de l'Église aussi. Où, voilà, on consciemment va vers son Seigneur, vers son Maître, pour lui dire « Seigneur, je t'aime ». C'est gratuit. On a reçu gratuitement, on donne gratuitement, vous voyez. Il n'y a rien à discuter là-dessus. Je ne vais pas faire de morale pour dire il faut venir, il ne faut pas venir, machin, etc. C'est vous, c'est votre liberté qui est engagée, c'est votre bonheur, c'est votre sécurité, c'est votre bien-être. Et c'est ça que l'Église a perdu pour chacun de nous quand on perd le premier amour. C'est de voir que tout est gratuit et notre volonté doit s'engager gratuitement dans ce don qu'on donne au Seigneur et que vous avez fait ce matin en venant, pour l'adorer et le servir. Je voudrais prier un instant pour que ces paroles descendent dans nos cœurs et que nous puissions être des intercesseurs pour cette nouvelle génération qui malheureusement n'est pas enseignée dans ce sens et qui se déchristianise de manière exponentielle. Ce n'est plus linéaire, c'est exponentiel. Et que nos enfants aussi soient préservés de toutes ces influences qui les éloignent de la réalité qui a été évoquée ce matin dans sa parole. Seigneur, nous te prions afin que nous, en premier, nous puissions réformer nos voies, nous puissions revenir à toi de tout notre cœur, être vivifiés par ta parole, respecter cette parole, Seigneur, dans toute son acception, et de pouvoir nous approcher de ce Sauveur que tu es pour nous et qui nous a montré la voie vers le Père. Et toi, Seigneur, tu as obéi parfaitement à tout ce que le Père te donnait de faire. Seigneur, donne-nous de pouvoir le faire de la même manière pour que nous puissions être obéissants jusqu'au bout, de ne pas tenir compte de notre confort, mais Seigneur, de vraiment vouloir être esclave de ton amour, Seigneur, esclave de ce que tu es notre maître, Seigneur. Nous voulons être à tes pieds et te servir. Seigneur, redonne à ton Église eh bien, cette soif, afin que nous puissions voir ta gloire se manifester au milieu de nous. Nous te le demandons au nom puissant de Jésus. Amen.